La question du jour, yes or no, oui ou non, c'est comme vous voulez. La question du jour qui vous était posée hier était la suivante. Les pays arabes veulent-ils, oui ou non, la fin de la guerre à Gaza? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs? Ont-ils, comme le veut l'expression, confirmé ou infirmé cette proposition?
Bah, ils ont tranché, c'est non. Non à une grande majorité, à 84% de non sur Facebook, 76% de non sur Insta, et même sur X, où souvent ils ne sont pas d'accord, 86% de non. Donc, c'est clair pour tous nos auditeurs que les pays arabes ne veulent pas la fin de la guerre à Gaza. Et c'est d'ailleurs également la réponse qu'a fait notre invité à cette question. On écoute Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, qui explique justement pourquoi ces pays arabes ne veulent pas la fin de la guerre à Gaza.
Comment ça se fait que les pays arabes ne veulent pas que ça s'arrête? Pour quatre raisons essentielles. La première, c'est que la cause palestinienne est devenue un élément essentiel de politique intérieure pour tous ces pays. En clair, lorsque quelque chose ne va pas en Algérie, en Tunisie ou ailleurs, et que la population n'est pas contente de ses dirigeants, ces derniers sortent la cause palestinienne. Et là, on emporte tout le monde à nouveau. Le roi Hassan II, le père de Mohamed VI, l'actuel roi du Maroc, disait, j'ai trouvé ça sur YouTube, hein, la cause palestinienne est l'aphrodisiaque des nations arabes. C'est un vrai moteur, hein, pour les pays arabes. Le deuxième élément, c'est que la cause palestinienne fait cohésion entre les pays arabes. Parce qu'ils ne s'aiment pas entre eux. En tout cas au niveau des gouvernements. Population, c'est plus compliqué. Mais au niveau des gouvernements, le Maroc n'aime pas l'Algérie, la Libye n'aime pas l'Égypte, etc. Qu'est-ce qui les réunit à la Ligue arabe? Quelque chose de positif, une construction, etc. Non. Ce qui les réunit et les seules résolutions qu'ils arrivent à voter, ce sont les résolutions contre Israël. Là encore, c'est l'ennemi commun qui fait la cohésion. Et ce qui est clair, c'est que si jamais vous avez la paix, vous perdez à la fois ce moteur de politique intérieure qu'est la cause palestinienne, et la question de la cohésion entre les pays arabes. À cela s'ajoutent deux autres arguments. Le premier, c'est l'argument de la puissance, c'est-à-dire que, et ça, mon homologue égyptien à l'époque m'en avait parlé, s'il y a la paix, Israël, qui est déjà une puissance régionale, devient une superpuissance régionale, parce qu'il n'est plus embêté par la pression de tous les pays du monde sur lui, par le BDS, par des tas de choses. Vous libérez, par la paix, la puissance d'Israël, qui va se retrouver capable de discuter avec tous les pays du monde, mais de faire monter en puissance son PIB et son commerce. Le PIB d'Israël est supérieur à la somme donc, des PIB de tous les pays qui l'entourent. Et donc, cette idée qu'au fond, en allant vers à la paix, on va libérer Israël et que les autres vont rester au bord du chemin, d'un point de vue notamment économique. Mais Israël fait mieux que tous les pays arabes en termes aussi de gouvernance, de puissance militaire, de high-tech, de tout ce que vous voulez. Eh bien, quel intérêt peuvent-ils y trouver? Avec, en plus, cette idée que qui est plus psychologique. L'idée même que les Juifs puissent faire en ce que eux considèrent comme une terre d'islam mieux que les musulmans est un problème par rapport au concept de dhimmitude. La dhimmitude, c'est ce qui, dans l'Empire ottoman, faisait le statut de tous les non-musulmans, les chrétiens, les juifs, toutes les communautés. Il fallait pour cela payer pour avoir le même statut que les musulmans. Mais surtout, il y avait l'idée qu'il devait être traité de façon inférieure. L'idée que l'inférieur fait mieux que vous-même dans une terre que vous considérez la vôtre est psychologiquement extrêmement difficile. Enfin, dernier point, qui n'est pas documenté comme les autres. c'est l'idée que les pays arabes, au fond, n'ont aucune envie que les Palestiniens récupèrent Jérusalem-Est et aient comme capitale quelque chose qui inclut la mosquée Al-Aqsa. Pourquoi ce peuple palestinien qui n'a jamais rien fait pour sa propre émancipation, etc., que d'être en permanence dans la victimisation, pourquoi aurait-il la mosquée, même si celle-ci est gérée par le Waqf, enfin, comme Waqf, par les Jordaniens? Ben non, voilà, ça les gêne. Et tout, d'ailleurs, tout ce terrorisme qui est fait autour de la question de la mosquée Al-Aqsa est en fait très problématique pour tous les pays arabes. D'où, évidemment, la question de savoir comment est-ce que, dans tous ces conflits d'identité qui se mettent, dans tous ces conflits géopolitiques, on va pouvoir avancer. Alors, on est actuellement dans une phase de la guerre qui est très particulière. Parce que la guerre, jusqu'aux années récentes, ou disons l'affrontement israélo-palestinien, était un affrontement essentiellement politique autour de la question territoriale. Certes, avec un petit peu de religieux derrière. Mais la différence aujourd'hui, c'est la confessionnalisation du conflit. C'est-à-dire que c'est la montée en puissance de la question religieuse dans le conflit. C'est pas pour rien que ce conflit le plus violent de l'histoire d'Israël se déclenche entre le Hamas, c'est-à-dire l'émanation à Gaza des frères musulmans, et un gouvernement qui, ici, a quand même une dimension ultra-religieuse plus marquée que tous ses prédécesseurs. Et ça n'est pas, évidemment, pour rien, et la guerre suivante, c'est vers le Hezbollah, qui est aussi, évidemment, l'émanation religieuse de l'Iran chiite. La dimension religieuse apparaît fortement depuis une vingtaine d'années, de plus en plus, à cause évidemment de la faillite ou de l'échec, disons, du politique pour régler la question. Depuis la nuit des temps, le politique et le religieux, ça marche ensemble, ou ça s'oppose, ou ça négocie ensemble, de façon à apporter ce qui leur est commun, c'est-à-dire l'objectif d'apporter des réponses aux gens sur les grandes questions qu'ils se posent. Et systématiquement, lorsque le politique baisse en capacité de le faire, le religieux monte. Et quand le religieux baisse, c'est le politique qui remonte. L'ensemble des deux faisant toujours la essayant toujours d'apporter des réponses. Mais ils ne sont pas à égalité, parce que même si vous avez des radicalités politiques, ce qui se passe, c'est que la radicalité religieuse a quelque chose à voir avec l'absolu, alors que le politique est par nature tourné vers le compromis. Plus vous passez vers une religiosité forte, plus le compromis politique devient difficile à obtenir. C'est une règle absolue. Il n'y a absolument pas de contre-exemple dans l'histoire. Voilà. Et bon, actuellement, nous vivons cette phase très particulière de radicalisation religieuse liée aussi évidemment au fait que l'ennemi, c'est l'Iran, et que celui-ci est gouverné par un régime de Mollah hallucinant, d'un point de vue religieux, justement. Voir ce qui s'est passé, cette horreur qui s'est passée récemment avec cette jeune femme. Il y a là quelque chose qui entraîne une radicalité de plus en plus forte du conflit, qui fait qu'au bout du compte, le caractère humain des deux côtés tend à disparaître devant la haine et devant la volonté de détruire l'autre. C'est le piège que nous vivons aujourd'hui. Et tout le monde y tombe à des degrés divers. C'est ça. C'est qu'il est très difficile d'y résister. Je dois dire que moi-même, il y a progressivement, j'ai eu de plus en plus de problèmes à avoir de la compassion pour ce qui se passait à Gaza. Et il a fallu que je me force. Et quand vous faites 35 ans de diplomatie, tout événement devient, vous le passez immédiatement à la moulinette dans votre tête de quelles conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme. Et vous essayez de rester en capacité d'analyse. Alors, je termine avec un petit peu de prospective. Là où j'ai commencé à m'opposer ou à être dans la critique du président de la République, c'est quand j'ai compris qu'en réalité, il n'arrivait pas à désigner l'ennemi. C'est-à-dire qu'il oscillait entre eux. Une fois, c'est Israël qui est le bourreau et les Palestiniens sont la victime. Et parfois, c'est les Palestiniens qui sont le bourreau et Israël la victime. À mon avis, il ne pourra y avoir d'avancée ou de clarification que lorsqu'il aura désigné l'ennemi principal, qui, à mes yeux, est l'islamisme djihadiste, radical et violent. Or, cette désignation, la France va rester hors du jeu en matière sur la question de la guerre et de la paix.